Vous écoutez les dossiers du FBI. Prise d'otage en famille. Deuxième partie.
En octobre 1995, les autorités étaient à la recherche de Christopher Drewbrook suite à un enlèvement et à un vol de banque à main armée. À la requête des agents du FBI et des policiers de Richmond County, la mère de Drewbrook l'appela sur son portable pour lui demander de venir parler aux autorités. Vers 1h du matin, il arriva, accompagné de sa petite amie. Bien qu'âgé d'à peine 19 ans, Drewbrook était déjà en liberté conditionnelle pour 5 ans pour vol et évasion d'un centre de détention. Les enquêteurs l'emmenèrent pour un interrogatoire. La petite amie de Drewbrook accepta de l'accompagner. Au bureau du shérif, l'agent spécial Jerry Jones interrogea Drewbrook à propos de la prise en otage de la famille Shaw et du vol de banque en Géorgie. Drewbrook reconnut qu'il connaissait les deux bandits qui étaient passés aux aveux, mais il nia être impliqué dans ce crime. Il déclara qu'au moment du vol, il se trouvait au Mont Vernon en Géorgie avec sa petite amie et une autre jeune femme.
Drewbrook nous a dit qu'il était parti avec sa copine pour aller chercher l'autre femme et qu'il n'était revenu que plus tard à Augusta.
Agent spécial Jerry Jones.
Il a déclaré avoir été en compagnie des deux femmes toute la journée, même après être revenu à Augusta. Ils seraient allés voir un film tous les trois.
Jones interrompit momentanément l'interrogatoire pour aller poser quelques questions à la petite amie de Drewbrook qui était venue au poste à la demande des enquêteurs.
Les deux jeunes femmes n'ont pas corroboré cet alibi.
Les autorités fédérales inculpèrent alors Drewbrook de vol de voiture, d'enlèvement et de vol de banque à main armée. Voici l'enquêteur Kenneth Booth de Richmond County.
Après plusieurs interrogatoires, Drewbrook a finalement commencé à collaborer avec nous. Il nous a avoué qu'il avait participé au vol et à l'enlèvement. En fait, il nous a dit que c'était lui qui l'avait commis, mais il a nié avoir tout orchestré. Il a ajouté qu'il faisait partie d'une organisation criminelle très importante et qu'il ne nous révélerait rien d'autre parce qu'il craignait pour la sécurité de sa famille.
Les complices de Drewbrook, Daniel Evans et LaMarco Roscoe, plaidèrent coupables à des accusations d'enlèvement et de vol à main armée. Ils furent tous deux condamnés à une peine de 30 ans de réclusion. Quant à Christopher Drewbrook, il fut poursuivi en justice par l'assistant du procureur, Richard Goolsbee.
Le seul problème dans cette affaire, c'était qu'on ne disposait d'aucune preuve scientifique. Chaque fois qu'on recevait un rapport de labo relatif à des empreintes digitales ou des traces de pas, on se retrouvait dans une impasse. Aucune d'elles ne correspondait à celle de Drewbrook. Heureusement, la caissière de la banque et les autres membres de sa famille étaient d'excellents témoins. Ils nous ont aidés à remporter cette cause.
Drewbrook fut reconnu coupable de 6 chefs d'accusation, ce qui le rendait passible d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans l'attente de connaître sa peine, Drewbrook fut détenu dans une petite prison de comté. Il y fit la connaissance d'un détenu. Jerome Frierson Bay, un autre voleur de banque, attendait son procès pour 3 vols à main armée. La prison du comté faisait alors l'objet de travaux d'agrandissement. Les hommes avaient beaucoup de temps pour planifier une évasion. Le 27 mars 1996, un gardien qui patrouillait comme à l'habitude remarqua une porte ouverte. On constata que 2 prisonniers manquaient à l'appel. Christopher Drewbrook et Jerome Frierson Bay. Des ouvriers avaient vu 2 prisonniers courir en direction d'un boisé non loin de la prison. Des équipes de recherche ratissèrent les bois, sans succès. les équipes étendirent plus loin leurs recherches dans les bois et les marécages. Des hélicoptères survolèrent méthodiquement la zone, mais on ne trouva rien. Pendant qu'on poursuivait les recherches, les policiers d'Edgefield County en Caroline du Sud commencèrent à vérifier sporadiquement la maison des Shaw pour s'assurer que tout était normal.
J'étais convaincu qu'il reviendrait chez sa mère.
Agent spécial Jerry Jones.
On a donc commencé une opération de surveillance de 24 heures par jour de la mère de Jaberk et de sa petite amie.
Les autorités veillaient au grain, mais Jaberk ne se montra pas. Doug Fender, alors agent spécial pour le FBI, tomba sur une piste intéressante.
Avec d'autres enquêteurs du secteur, nous menions une enquête sur un vol d'auto dans la région d'Augusta. Il s'agissait d'une Mitsubishi Eclipse verte. Un détenu de la prison nous a alors indiqué qu'il avait cédé ce véhicule volé à l'une des amies de Jaberk.
Les agents interrogèrent la jeune femme à l'hôtel où elle travaillait. Elle commença par dire qu'elle ignorait tout de l'évasion, mais l'agent Fender se montra persuasif. Quand elle comprit qu'elle risquait la prison, elle reconnut avoir aidé au succès de l'évasion. Elle déclara que la petite amie de Jaberk et elle avaient laissé une voiture voler dans un parc de stationnement près du boisé jouxtant la prison.
Après son évasion de la prison, il n'a eu qu'à se rendre jusqu'à la voiture et à s'enfuir avec Frierson Bay.
Agent spécial Jerry Jones.
Ensuite, comme prévu, ils se sont rendus à un campement préparé à leur intention par les deux jeunes femmes. Ils y ont trouvé des vêtements, de l'eau et tout le nécessaire.
Les évadés trouvèrent facilement les vêtements, aliments et armes qui les attendaient. Ils étaient libres, mais ils avaient besoin d'argent. Ces voleurs de banque savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Le lendemain, une voiture correspondant au véhicule volé se gara devant une banque de Lumberton en Caroline du Nord, soit à 350 km au nord-est de la prison. Deux hommes portant chapeau, gants et lunettes fumées dévalisèrent la banque à la pointe d'un fusil. Les employés obtempérèrent pour éviter qu'il n'y ait des victimes. La police de Lumberton et les agents du FBI de la Caroline du Nord se rendirent sur la scène du crime. Ils constatèrent que les voleurs étaient partis avec 4 500 $. Des caméras de sécurité avaient filmé toute la scène. Les images étaient trop floues pour qu'on puisse discerner les visages des voleurs, mais les descriptions qu'en avaient faites les employés correspondaient à celles de Jaberk et de Frierson Bay. De plus, la voiture dans laquelle ils avaient pris la fuite était la même que celle des fugitifs. Cette voiture était le meilleur indice pour les retrouver, selon l'agent Doug Fender.
On a introduit la description de cette voiture dans la base de données nationale. On a découvert que les policiers de Lumberton, en Caroline du Nord, l'avaient retrouvée.
Une heure plus tard, les agents reçurent le rapport d'une intrusion dans une maison à Lumberton et d'un vol de voiture. Ils interrogèrent les victimes. Un homme et sa femme effectuaient des réparations sur leur voiture dans le garage quand deux hommes armés avaient fait irruption, exigeant des vêtements de rechange et les clés du véhicule. Et ils étaient aussitôt repartis. Le couple identifia Jaberk et Frierson Bay parmi les photos de plusieurs hommes.
On a ensuite transmis la description de ce deuxième véhicule.
Pour retrouver les deux complices, on dut suivre la piste des banques qu'ils dévalisaient.
On a remarqué que plusieurs banques avaient été volées le long de l'autoroute 95.
Agent spécial Doug Fender.
Durant la période où l'on suivait Frierson Bay et Joburg, on les soupçonnait d'avoir dévalisé entre 11 et 14 banques sur la côte Est.
Lors de ces vols, les caméras avaient capté l'image d'un ou deux hommes correspondant à la description des fugitifs.
Grâce aux enregistrements magnétoscopiques et aux identifications de témoins, nous avons pu établir que les deux hommes étaient encore ensemble en arrivant dans le secteur de Fredericksburg, en Virginie.
Les agents concentrèrent leurs efforts au New Jersey, où vivaient des proches parents de Frierson Bay.
En nous basant sur des informations fournies par le public suite à la diffusion d'une émission, on a retracé Frierson Bay dans un motel de Patterson au New Jersey. Les agents du bureau du FBI de cet État ont commencé à le surveiller. Quand ils ont pu établir que le suspect habitait dans cette chambre de motel, ils ont décidé de rester sur les lieux.
S'il était armé, il pouvait être dangereux de s'approcher de la porte de sa chambre. On décida donc d'attendre qu'il sorte. Bientôt, les agents apprendraient à leurs dépens que le fugitif ne se laisserait pas capturer sans se battre. Après que deux évadés eurent commis une série de vols de banque à main armée, les agents croyaient avoir retracé l'un d'eux, Jerome Frierson Bay, à un motel du New Jersey. Après quelques heures d'attente, ils aperçurent le fugitif. Pendant qu'il se rendait à sa voiture, une unité SWAT passa à l'action. Il verrouilla la voiture de l'intérieur, mais cela n'allait pas arrêter l'équipe, comme nous le raconte l'agent spécial Doug Fender.
Un des hommes de l'unité SWAT a fracassé la vitre de l'auto à l'aide du manche de sa mitraillette. Frierson Bay a ensuite été sorti de force du véhicule.
Dans la voiture, les agents trouvèrent un pistolet semi-automatique Glock de calibre 40, chargé, de même que $1,500 d'argent volé. On fouilla dans sa chambre de motel, mais on ne trouva aucune trace de Christopher Joburg, son complice. Jerome Frierson Bay plaida coupable à 10 vols de banque à main armée et fut condamné à 19 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Il déclara qu'il ignorait où Joburg se trouvait. Pour l'agent spécial Jerry Jones du FBI, retrouver Christopher Joburg était sa priorité numéro un.
On croyait que Joburg et Frierson Bay étaient partis chacun de leur côté et que Joburg était retourné en direction de la Géorgie. J'ai toujours pensé que Joburg rentrerait chez lui.
Le FBI offrit alors la récompense de $10,000 et ajouta le nom de Joburg à la liste des 10 hommes les plus recherchés quand une téléspectatrice fournit une piste prometteuse. Selon elle, le fugitif habitait avec son pasteur à Atlanta, bien que celui-ci ne sût pas que Joburg était un criminel. Elle était tombée sur Joburg en vérifiant l'état de la maison du pasteur après que celui-ci eût été hospitalisé à la suite d'une défaillance cardiaque. Une équipe d'arrestation surveilla la maison en se faisant passer pour des jardiniers. Le 9 mai 1996, un véhicule se gara dans l'entrée de la maison du pasteur. Quand le conducteur en descendit, les agents le reconnurent immédiatement. C'était Joburg. L'équipe d'arrestation passa à l'action. Pris par surprise et piégé, Joburg ne put s'enfuir. En le fouillant, les agents trouvèrent $2,000 dans une de ses chaussettes. Il fut remis en détention en attendant sa sentence suite au vol de banque et à l'enlèvement à Augusta.
Quand Joburg a été arrêté à Atlanta, la pression sur nos épaules s'est dissipée et on a poussé un long soupir de soulagement. On a tous pu rentrer chez nous, mais pas pour longtemps.
Joburg refusait d'abandonner. 6 semaines après sa capture, il s'échappa de nouveau de sa cellule.
Quand Joburg s'est évadé, on m'a téléphoné.
Agent spécial Jerry Jones.
Je me suis rendu à la prison pour tenter de préserver tout indice qu'il aurait pu laisser derrière lui. On a trouvé un morceau de lame de scie. Il était sorti par la fenêtre de sa cellule pour se retrouver dans une cour protégée par une double grille recouverte d'un protecteur à accordéon. Il a dû passer par-dessus cette grille et ce protecteur à accordéon.
Les agents fouillèrent le terrain et examinèrent la grille dont le haut était surmonté de barbelés coupants. Ils trouvèrent les fragments d'un uniforme de prisonnier.
On y a relevé des traces de sang. On savait donc qu'il s'était blessé, mais il était à pied.
Il fallait espérer qu'il n'était pas loin.
On a commencé à suivre sa trace dans un secteur rural et boisé qui menait à un secteur marécageux d'environ 25 km². Même si je n'étais plus tout jeune, je suis resté avec l'équipe pendant plusieurs jours et l'on a cherché en vain. J'ai alors pensé qu'on pourrait peut-être le retracer à l'aide de matériel électronique. J'ai contacté la commission de l'énergie atomique située en Caroline du Sud et ils m'ont fourni un hélicoptère équipé d'un système infrarouge qui est sensible à la chaleur.
L'équipe fouilla des dizaines de kilomètres carrés avec cet équipement ultra-performant. Mais Joburg échappa à la détection. Il courait toujours. Quatre jours plus tard, un policier en congé à Epling, en Géorgie, crut apercevoir le fugitif. L'homme boitait comme s'il était blessé. Le policier appela ses collègues au poste et ceux-ci vinrent prendre position dans tout le secteur.
On l'a trouvé dans un secteur boisé, derrière une école, où on l'a arrêté.
Christopher Joburg était de nouveau en détention. 2 semaines plus tard, il fut enfin jugé coupable du vol d'Augusta, de l'enlèvement d'Amy Shaw et de la prise d'otage de la famille de celle-ci. L'assistant du procureur Richard Goolsbee fit l'impossible pour que Joburg ne retourne jamais dans la société.
Notre rôle consiste à protéger la population. C'est notre plus importante responsabilité. Nous étions donc très préoccupés par cette affaire et nous voulions qu'il écope de la peine maximale. Par bonheur, la Cour l'a condamné à la peine maximale, ce qui consistait en la prison à vie plus 5 ans.
Joburg fut condamné à purger sa peine à la prison fédérale Leavenworth au Texas. Sans possibilité de libération conditionnelle, sa seule chance de recouvrer la liberté serait de s'évader. Quelques semaines après sa sentence, on trouva Joburg alors qu'il faisait une autre tentative d'évasion, accroché sous le camion d'une blanchisserie. Il était pratiquement parvenu à se rendre à la grille d'entrée. Joburg fut ensuite transféré au pénitencier fédéral à sécurité maximale d'Atlanta, en Géorgie.
Même si Houdini se trouvait au pénitencier d'Atlanta, il ne pourrait pas s'en échapper. Et Christopher Joburg n'a rien d'un Houdini.
Personne ne doute que Joe Burke n'essaie encore de prendre le large. Mais maintenant, il est détenu dans l'une des prisons les mieux gardées d'Amérique.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Peter Cooper et David O'Donnell. Il a été réalisé par John Cavanagh. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Olivier Citroux.